Bonjour et bienvenue. Le rire n'a pas de limite, pas de frontières. On peut rire de tout, même si ce n'est pas avec n'importe qui, comme le disait l'autre. Le rire est une valeur humaine, c'est le propre de l'homme, et finalement, c'est l'un des plus beaux trésors que l'on a en nous. Dans les archives du rire, je voulais encore vous présenter les drôles de dames, où quand les comédiennes et comédiens se cachent derrière un costume pour jouer un rôle de femme. Parce que la caricature est certainement différente que l'on joue un homme ou une femme. Mais il n'y a pas que de la caricature. Chez les personnages que vous allez côtoyer dans cette émission, vous allez remarquer qu'il y a différentes manières d'entrer dans la peau d'une femme. Laurent Simonin, par exemple, c'est l'observation dans le monde rural. Les vampes, c'est la médisance, les mégères, les grenouilles de bénitier. Et pour finir, Marie-Thérèse Porchet, c'est un rôle de composition, un travail d'acteur qui permet de parler de l'homosexualité sans tabou, mais pas seulement. Madame Porchet parle également de Tupperware, de lessive et de Madame Lopez, sans prendre de gants.
Les archives du rire.
Nous débutons avec Laurence Simonin, la fameuse Madeleine Proust. Je vous propose deux interviews avec 30 ans d'intervalle. La première, c'est justement Laurence Simonin que j'avais rencontré au théâtre de Mourteau le vendredi 9 mai 1986. Elle me parlait de ce personnage qui était assez nouveau, la Madeleine Proust.
Voilà! Voilà! Bonjour, monsieur! Oui, monsieur! Comment? Ah, bonjour, monsieur! Ah, ben, vous faites erreur, monsieur. Ici, c'est chez André Proust. Ah, bon? Ah, mais il n'y a pas de Marcel ici, monsieur! Ah, de la famille! Ah bon, parce que bon, je me disais, il n'y a pas de Marcel ici, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, monsieur?
Il y avait un grand intérêt pour les gens qui habitaient dans mon village, les paysans, au-dessus de Mourteau, quand j'étais encore institutrice. J'avais tellement de plaisir à parler avec eux. C'est vrai que même si on parle de banalité ou de la vie du village, des jardins, du temps, dans un village, on n'ignore personne. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité que maintenant, je vois dans les villes, on ignore de plus en plus l'autre. Et puis, cette façon de raconter les choses, de dédramatiser aussi. Et puis, je me suis intéressée aussi aux expressions de la région. Je me suis dit, mais il y a trop de choses drôles, quoi. On a encore un parler local très riche. Je me suis dit, il y a trop de choses drôles, il faut noter tout ça. Et voilà, c'est né comme ça. Alors, j'ai déjà pris des notes. J'ai noté aussi d'autres expressions amusantes, mais qui ne font pas forcément partie de notre parler. Et puis, les histoires des gens, quoi.
Ben, est-ce que moi, je suis la seule Proust à derrière les gras, monsieur? Ben, moi, je suis une fille Bobillet, la fille d'Abel Bobillet. Ben, enfin, mon pauvre papa est mort en 65. Enfin, c'est sûr, il est mort de sa belle mort. Ah ben, mon papa, ils étaient 7. Ah, André? Ah ben, voyez, mon pauvre André, monsieur, il avait attrapé une maladie dans les reins. Il est mort à 52, le pauvre.
C'est vrai que, bon, pour moi qui ne suis pas du tout de ce même milieu, entendre des journées entières les gens parler d'un accident ou d'un fait, ça peut être un fait triste. Mais comme ces faits divers-là emplissent complètement la vie des gens, c'est assez incroyable. Et moi, je passais des heures entières chez les paysans. J'adorais écouter les histoires d'avant-guerre, aussi d'après-guerre. Alors, j'ai commencé de prendre un tas de notes. Alors, de noter des choses dans les magasins, dans la rue, de noter après les histoires qu'on m'avait racontées quand je rentrais chez moi. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai classé mes notes par thème et que j'ai construit ce monologue. Bon, j'ai fait quand même un travail pendant 6 mois, donc j'étais complètement imprégnée du milieu, des thèmes, de la façon d'être, de vivre. Et puis mon monologue, il s'est construit un peu comme ça. J'étais déjà dans la peau de la Madeleine Proust quand je l'ai écrit.
Mais ils en bavent pas maintenant, les paysans. Hein. Nous, on en a bavé, les paysans. Chez nous, il n'y avait pas l'eau sur l'évier, pas le confort, pas le chauffage central, et puis pas de tracteur, pas de trieuse, puis pas de robot-marie, il n'y en avait pas. Oh non, mais aujourd'hui, c'est du gâteau, les paysans. Comme chez la Paulette, eh bien, ils ont mis l'évier au troisième parce que c'était plus possible. Au troisième gosse, ils ont mis les vieux.
Qu'est-ce que vous retenez plus sur vos débuts, les premières fois que vous avez joué la Madeleine Proust?
Ce qui m'a déjà le plus fait plaisir, c'est que tout de suite les gens m'ont dit que c'était juste, que j'avais fait quelque chose de vrai. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le travail d'acteur, dans les compositions. Pas une caricature, pas une critique, montrer les choses telles qu'elles sont. Après, les gens y prennent et puis ils jugent eux-mêmes les choses. Et les premières choses qui m'ont beaucoup touchée, c'est que j'avais joué devant le club du troisième âge et... Les gens du troisième âge, j'ai joué devant énormément de gens du troisième âge, ils sont vraiment devenus mes copines, mes copains. Comme si la Madeleine Proust avait vraiment leur âge et il s'est passé des choses assez drôles. Et puis alors ce qui m'a plu aussi, c'est les réflexions qu'il y avait pendant le spectacle qui m'ont permis d'amener des améliorations. Comme on disait, oh là là, elle ne met pas de dés pour coudre, elle n'a pas de lunettes ou des petites choses comme ça. Ou alors, elle épluche bien, oh là, elle s'est... Ils me critiquaient comme ça et moi j'en prenais note. Et puis alors le plus drôle, c'est toutes les réflexion que j'ai eue après le spectacle, parce que je suis quand même partie de Morteau, d'une petite salle de 100 places, et j'ai joué pendant 20 fois à Morteau, et après j'ai joué dans tous les villages du Haut-Doubs, de la Franche-Comté.
Allô ? C'est la télé ? Ah bonjour mademoiselle, dites je vous appelle là, voyez, c'est pour un chanteur, ce serait pour le faire passer à la télé. Ah ben je n'habite pas à Paris mademoiselle, mais voyez, je reste dans le Haut-Doubs. Ah ben, passez-moi voir ce directeur de la télé. Oh, ben, est-ce que je peux parler à M. Guilux? Ah, ben, il n'est plus sur cette chaîne. Oh, ben, c'est dommage, ça lui aurait bien plus chanteur. Puis lui, il en a encore bien... Comment? Ah, ben, peut-être bien, alors. Mais vous savez, mademoiselle, il chante bien, et puis là... Une belle, voyez, j'avais entendu à la noce de mon neveu, là, du Jean-Louis, puis je me dis, il faut qu'il se lance à Paris, parce qu'il y en a...
Peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais d'après les témoignages des gens de radio et de télévision que j'ai vus, surtout en télévision et radio nationale, ils ont énormément de lettres et de coups de fil de ce genre-là. Et c'est pour ça aussi que le sketch, l'attaché de presse, a beaucoup marché au niveau des médias, des télévisions, parce que les gens disaient c'est exactement ça. Alors, il y en avait dans le public qui trouvaient que c'était trop gros, cette histoire, mais c'est pas vrai, mais c'est en toute bonne naïveté. Quoi. La Madeleine Proust, c'est par pure générosité, en toute naïveté, elle se dit pourquoi pas, pourquoi mon neveu il a du talent, pourquoi il passerait
ben,
pas à Guilux.
Eh bien, écoutez, voir, est-ce que je prenais une commission pour le directeur? Voilà, eh bien, dites-le voir qu'il me rappelle samedi vers les 11h15. Voilà, mais pas plus tard, hein, parce qu'après, il y a le boulanger qui passe.
En automne 2016, 30 ans plus tard, c'est Séverine Boyat qui va rencontrer Laurent Semonin à la Chaux-de-Fonds. Dans le cœur de la comédienne, la Madeleine Proust est toujours présente. Elle remonte sur scène pour célébrer les 30 ans de cette fameuse Madeleine Proust.
Alors, la Madeleine Proust, c'est un personnage que j'ai imaginé il y a 30 ans. J'étais au Conservatoire d'art dramatique à Besançon et j'ai compris tout de suite que je voulais être seule en scène, d'autant que je venais de voir Zouk et ça m'avait vraiment impressionnée, son exigence. Et je me suis dit, il faut que je veux inventer un personnage, mais il faut que ce soit un personnage qui ait beaucoup d'originalité et que je travaille avec autant d'exigence. Et comme j'étais instite dans un petit village du Haut-Doubs, je faisais la pédagogie freinée, donc je rencontrais très très souvent les parents. On faisait beaucoup de réunions, ils venaient dans la classe transmettre leur savoir. Et puis ces gens du Haut-Doubs, ces paysans, ils sont nature, ils ont tout de suite l'expression qui vient avec leur accent. Donc j'ai eu le flash de créer une vieille paysanne du Haut-Doubs. Et mon compagnon d'alors, qui avait toujours de la propos, m'a dit « Ah bah alors baptise-la Madeleine Proust ». Au clin d'œil aux petites Madeleines de Proust. Et ça m'obligeait à aller à la recherche des réminiscences, de ce qui pouvait déclencher comme souvenir chez le spectateur avec les odeurs, avec ce qui était dit dans le texte, avec les attitudes aussi.
Alors, Madeleine Proust! Ah ben, vous le connaissez aussi? Alors, derrière les gras! Eh ben, derrière comme derrière! Les comme les, et puis gras comme gras! Voilà, 20 mademoiselle. Allez, eh bien, écoutez, Wart, je vais vous envoyer une saucisse de morteau.
J'ai travaillé pendant un an à la fois le corps de la Madeleine, ses déplacements, ses tics. Essuyer la chaise avant de s'asseoir, essuyer la table sans arrêt. Il y a quelque chose de l'ordre de la maniaquerie, donc quelque chose d'un peu psychopathe comme ça. Et je lui ai écrit un inconscient. C'est pour ça aussi qu'elle a cette force-là, que quand on me voit sur scène, on voit vraiment la Madeleine. Je lui ai écrit tout ce qu'il y avait dans son inconscient chaque fois qu'elle disait quelque chose. Donc ça a donné une épaisseur, de la profondeur aussi à ce personnage.
Ma cousine, là, la Lucie. Elle a été veuve longtemps, mais elle s'est mise en ménage avec un Suisse. Eh bien, il a des sous, celui-là. On y est allé l'année dernière. Tiens, ben, c'était les saints de glace. Mais il faisait chaud. On était trempés de chaud. Oh, moi, j'ai cru que j'allais agonir.
Les rires diffèrent. Par exemple, quand je vais jouer à Paris, ils ne vont pas rire forcément au même endroit que dans le Houdou. Si je vais jouer en Bretagne, là je vais aller jouer en Bretagne, il va y avoir des rires qui vont être d'une intensité différente, à des endroits différents. Et en Suisse aussi, on les entend. On entend ce qui se passe dans la tête des gens avec les rires. On entend que là, ils rigolent pour une telle raison.
Je suis belle. Ça a quel temps ? Il me regarde, il rigole, puis il fait « Au passé !»
Les archives du rire.
Autre style, autre humour avec les vampes. Nicole Avezard joue Lucienne et Dominique Delacoste, c'est Gisèle. Des dialogues fous, de la médisance, une caricature, bien sûr, c'est pour rire. Et dans les années 90, ça marche plutôt bien. Rencontre avec ces deux sales gamines dans les loges du festival Mort-Sourire, on est en juin 1991.
On s'est trouvé, on faisait des choses drôles, amusantes, et puis ça faisait rire, donc on s'est dit, bon, on va continuer comme ça, comme on était en retraite, on avait un peu de temps libre, voilà. Voilà.
Ben oui, c'est au club, voyez, oui, on a fait rigoler les amis, puis de fil en aiguille, ben,
on va écouter voir un peu ce qu'ils disent, là. C'est vendredi soir que les policiers ont retrouvé dans le réfrigérateur de Gilbert Lagan les restes congelés et coupés en morceaux d'une jeune fille de 24 ans. Gilbert Lagan a d'abord affirmé que les morceaux de viande provenaient des restes du méchoui organisé lors du mariage de sa sœur. C'est alors qu'en fouillant dans la poubelle, les policiers ont retrouvé la tête de la victime, la bouche ouverte semblant vouloir dire « Au secours, aidez-moi !»
Vous avez fait un petit peu de théâtre ensemble, vous êtes un petit peu perdu de vue et puis retrouvé après pour créer ces deux personnages.
Oui, enfin, on ne s'est pas vraiment quitté, hein, faut dire. Non, ça fait longtemps qu'on se connaît, oui.
Non. On ne s'est pas perdu de vue, mais qu'on se connaît au contraire. Hein. Mm-hmm. Plus ça va, plus on est ensemble. Hein. Mais maintenant, elle vient vivre chez moi parce qu'elle a une fuite d'eau. Elle en profite, et ben on vit quasiment ensemble maintenant.
Ah, oui. Oh, ben tiens, il y a les conseils de santé de Rick Azaray. « Mesdames, pour supprimer la culotte de cheval, mangez de l'avoine. »
Tiens, c'est bizarre, je vais écouter voir un peu. Un voleur allemand se fait mordre par un berger arabe. Il doit y avoir une infusion, c'est pas possible.
Oh, encore un attentat contre une femme seule. Ça vous fait pas peur, ça, Gisèle? Moi, j'y pense souvent.
Ça va pas de vous mettre des idées pareilles dans la tête, non?
Ben, regardez cette pauvre Mame le Branchu. Elle s'est fait bousculer par un voyou qui voulait lui voler son sac à main. Eh ben, depuis, elle est...
Eh ben, tant pis pour elle, elle l'a bien cherché. Vous allez pas me dire quand même, non? Celles-là qui se font tenter, c'est qu'elles le veulent bien. Avec les mini-jupes et les bas coutures, croyez pas qu'elles le font exprès, non?
Oh ben oui.
Alors?
Oh ben oui, oui.
Alors? Nous aussi, si on voulait, on pourrait se faire attenter. Tous les jours, même.
Ah bon?
Ben oui. Seulement, on se respecte. On a notre compte à soi.
Deux personnages sont nés, il y a un personnage qui est timide, un autre personnage qui est un petit peu grincheux. Comment ça s'est partagé? Comment est-ce qu'on écrit tous ces personnages?
Oh, on l'écrit pas, c'est notre vie. Alors, vous savez, ça vient tout seul, hein, c'est nature, hein, nous, on se force pas. Hein. C'est notre vie. Ça, c'est tout simple, alors. C'est très simple, oui, oui.
Vous avez toujours été comme ça.
Bah, vu, on est comme ça, puis c'est tout. Bah, ça fait rire les gens, bah, tant mieux, hein.
Qu'est-ce qu'il fiche?
Allô? Allô?
Allô, ici, ah. C'est bonjour, Lucienne, j'écoute.
Oui, Lucienne, c'est moi.
Ah ben, moi aussi, c'est moi.
Oui, mais c'est bien que c'est vous, puisque je vous appelle.
Allô?
Lucienne, vous m'entendez?
Oui. Ah. Qui la demande?
Mais qui voulez-vous que ce soit? Idiote.
Idiote. Ah, c'est vous, Gisèle. Quelle bonne surprise. C'est Lucienne à l'appareil.
Oui, bon, ça va, ça va. Lucienne, écoutez-moi, c'est une catastrophe. Tous mes tuyaux sont bouchés, je suis complètement inondée.
Ah bon?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il dit, le docteur?
Quel docteur? Mais enfin, je vous dis, j'ai 2 mètres d'eau.
Et ils vont vous hospitaliser?
Oui,
parce que Mme Kamel oui. avait pareil des poches d'eau sur le dos, ben ça l'empêchait de s'asseoir, ils ont été obligés de la coucher sur le ventre.
Lucienne!
Oui?
Est-ce que vous pouvez me dépanner, oui ou non?
Vous dépanner?
Mais oui!
Mais j'ai pas les outils!
Ah! Bon, oui, Lucienne!
Allô?
Lucienne, écoutez-moi bien!
Oui?
Restez chez vous, ne bougez pas, j'arrive!
Allô? Allô, 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 allô!
C'est actuellement déjà votre deuxième spectacle que vous avez créé après votre pèlerinage à Lourdes. Voilà. Vous êtes dans l'appartement de Lucienne.
C'est ça, oui. Bah, moi, elle m'a gentiment dépanné puisque j'étais un peu en problème d'appartement. Elle m'a dit, bah, venez donc à la maison, puis voyez comme elle est accueillante. Bah, moi, je reste un peu. Hein.
Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est qu'elle est venue chez moi, puis elle m'a dit, je m'installe. Et puis moi, j'ai pas pu dire non, quoi. Puis alors, vous savez, c'est quelque
chose. Bah, vous êtes content, ça vous fait un peu de compagnie. Vous êtes tellement seul, ça vous fait de la compagnie. Bah,
oui, mais bah, enfin, quand même, moi, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Bah,
oui,
puis
moi, ça me dépanne, ça m'arrange. Moi, j'aurais fait pareil pour vous, hein, vous savez.
Ah oui, oui,
oui, oui.
Qu'est-ce qu'on fait?
Si on disait du mal.
Oh oui, oh oui. Par qui on commence?
Vous savez ce qu'on raconte?
Oui.
Comment ça, oui? Oh non, si on commence comme ça, moi je joue plus, hein.
Enfin, non, non, non. Qu'est-ce qu'on raconte?
Eh ben, même j'enseigne. Il paraîtrait à ce qui paraît qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Et ils viennent pas que pour représenter, croyez-moi.
Il y a même pire. La semaine dernière, elle a fait entrer un témoin de GVO.
Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides. Ils y avaient fait un bon ourlet. Ben, il y a toutes les coutures qu'on lâche.
Extra, je vais vous laisser parce que dans très peu de temps, vous allez entrer en scène. Merci beaucoup, les vampes.
Oui, voilà. Eh ben, c'est bien.
Bon, ben, bonjour chez vous, oui.
Oui, oui, voilà. Voilà.
Très bon spectacle, merci infiniment.
Vous croyez qu'elles vont revenir?
Ah, ben, j'espère bien, j'en peux encore saluer quand même, non? Ça se fait, hein?
Oui, 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 on va attendre, oui. Hein? Voilà, voilà.
C'est bien, hein? Ça vous a plu?
Ah oui, oui, surtout les décors!
Ah oui. Ah oui. Puis on est bien assis dans ce théâtre, hein?
Ah oui.
Moi, j'étais au 4e rang en plein milieu, on voit très bien.
Ah oui.
C'est confortable.
C'est quoi donc une affaire de molleton de velours de luxe?
Non, c'est de la velours renforcée.
On s'en pose pas trop. Hein.
C'est mieux que la plastique, hein? Parce que la plastique est dedans, hein? Moi, je m'endors au bout de la plastique. Oui,
on
a
ça, on est
Marie-Thérèse Porchet, plus de 20 ans de scène et d'humour. Joseph Gorgoni, qui se cache derrière Marie-Thérèse Porchet, c'est un danseur et comédien de talent. Dans ses spectacles, le geste précis, les textes sont signés Joseph Gorgoni et Pierre Naftul. Depuis les débuts d'ailleurs, un quatre-mains qui fonctionne à merveille. Rencontre avec Marie-Thérèse Porchet, Joseph Gorgoni, en 1996 à Genève.
Bonjour à tous, Marie-Thérèse Porchet et Berthelet qui vous parlent en direct de votre poste. Oui, oui, c'est moi. Les enseignes, s'il vous plaît.
Mais mon Dieu, c'est à moi déjà. Oui, on se retrouve dans la salle tout à l'heure. Mais Jacqueline, mais j'ai un trac. Mais un trac, si tu savais.
Joseph Gorgoni, bonjour.
Bonjour.
Bon, maintenant, on commence de le savoir quand même. C'est vous qui incarnez le personnage de Marie-Thérèse Porchet. C'est un personnage qu'on a découvert par la télévision et qu'on redécouvre aujourd'hui en spectacle. Vous êtes avant tout un comédien et cela paraît plus au niveau du spectacle qu'au niveau de la télévision, évidemment.
Ah bah c'est clair que la télé, c'était... Bon déjà, c'était très court, donc il fallait que ce soit très efficace très vite. Donc 2 minutes par jour, c'est clair que si on avait fait par exemple 1 quart d'heure par jour, ça aurait été très vite insupportable. Parce que quand on est face à une caméra avec aucun... Enfin, rien d'autre qu'une caméra en face de soi, on peut pas faire longtemps, surtout avec une voix pareille, un personnage pareil. Sur scène, c'est autre chose, évidemment. Enfin, y a une vie tout autour de Marie-Thérèse qui l'a fait exister un petit peu plus qu'à la télé, quoi. Et en général, les gens qui viennent voir le spectacle ressortent en se disant « Ah ben, on est content d'avoir vu autre chose que ce qui se fait à la télé, quoi. »
Est-ce que c'était prévu dès le départ? Parce que on se demande s'il n'y avait quand même pas déjà l'envie de la faire arriver sur scène, cette Marie-Thérèse Porchet.
Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, au départ, je suis un danseur. Hein. Moi, ça fait longtemps que je fais de la scène. J'ai fait du cabaret, j'ai fait Katz à Paris, par exemple, le Rocky Horror Show, des choses comme ça. Et puis, en fait, j'ai rencontré Pierre Naftul, avec qui j'ai fait des revues ici à Genève. Et puis, moi, j'avais envie d'arrêter de danser pour pouvoir faire de la comédie, pour pouvoir jouer la comédie, pour pouvoir chanter plus. Et puis, en fait, Marie-Thérèse est arrivée dans un des sketchs de la revue genevoise. Et puis, on a vu que ça passait bien avec le public. Et on s'est dit, enfin, nous, quand on s'est rencontrés avec Pierre, en fait, on a tout de suite eu envie de travailler ensemble. Moi, j'avais très envie de faire quelque chose seul sur scène avec Pierre Naftul. Et puis, on cherchait des idées. Et puis, Marie-Thérèse est arrivée un petit peu comme ça par hasard, parce que c'est une voix que je faisais souvent... pendant les répétitions, pendant les pauses, et tout ça faisait rire tout le monde. Puis on s'est dit, bon, on va essayer d'en faire un personnage. Et puis Marie-Thérèse est née comme ça, en fait. Mais évidemment qu'on avait très envie de pouvoir faire un spectacle, d'amener quelque chose sur scène d'un petit peu nouveau, quoi.
Camariere ? Oui, Camariere, s'il vous plaît. Une 4 saisons. Pardon. Una quattro stagioni senza capri, per favore. Oui, oui, senza capri. Oui, parce que capri, c'est fini. Là, 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 j'adore l'opéra. Hein ? Et pour mon fils, ben je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux manger, Choupette? Oh, oui, excuse-moi, vous savez, il est horreur qu'on l'appelle Choupette. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre, Christian Christophe? Oui, Christian Christophe. Oui, parce que mon mari et moi, nous n'étions pas d'accord sur le prénom. Il fallait bien sûr qu'on y retrouve le nom du Christ, mais lui préférait Christian, moi j'aimais mieux Christophe. Alors, d'un commun accord, on a choisi les deux, oui. Parce qu'un Christ, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux, hein? Oui, mettez-nous un petit peu de viande séchée en entrée. Oui, puis alors après, ça y est. Dépêche-toi, le monsieur attend, hein. Voilà, alors pour mon fils, on a caleçon, s'il vous plaît. Oui, mais alors ouverte, hein, la caleçon, qu'on voit bien les œufs. Oui, non, parce que les œufs, quand c'est pas franc, c'est ce que c'est, hein. Oui. Moi, j'ai une amie qui a attrapé la monellose. Et alors, d'après le docteur Stucki, une sale monellose, alors ça, elle s'en est jamais remise, la pauvre.
J'ai fait pas mal de cabarets, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai bossé dans des cabarets des transformistes, voilà. Donc j'ai incarné souvent des personnages de femmes, et puis j'ai travaillé dans un bureau pendant quelques années pour pouvoir payer mes cours de danse, et je ne travaillais qu'avec des femmes, donc c'est un milieu que je peux pas dire que je m'identifie à une femme, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin j'en connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui sont des femmes, et puis j'ai passé pas mal d'après-midi dans des tea rooms pour écouter ce que disaient les femmes, et les femmes en règle générale, en tout cas sur la scène humoristique française, enfin francophone, c'est les femmes qui me font rire, quoi, comme Valérie Le Mercier, Zouk, Muriel Robin. Enfin, les femmes me font plus rire en règle générale que les hommes. Donc voilà, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est naturel. On s'est pas dit on va faire une femme parce que ça va faire rire. C'est simplement parce que moi, ça me touche peut-être plus.
Qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit peu de vin pour fêter ça, hein? Oui, parce que Choupette a fini son armée. Oh! Bon, enfin, je veux dire, Christian Christophe rentre aujourd'hui de l'école de recrue. Alors, oui, mettez-nous quelques antipastos. Oui, pasté, oui, antipasté, oui, puis du vin rouge et un peu d'eau, vous avez du Bardolini. Oui, Lino, oui, c'est ça, Lino. Bon, écoutez, vous nous mettrez un Michianto, une San Pellegrina et un Coca-Cola. Mais ces garçons, je te jure, on est dans une pizzeria, ils sont pas fichus de savoir l'italien. Sauf Luigi. Hello? Buonasera, oui. Oui, ça va, così cosa, oui. Mais ce pizzaiolo, je l'adore, alors lui, il est charmant. Mais regarde-le faire ses pizzas, regarde. Ces boules de pâte, là, comme il te les prend, comme il te les pétrit, ça me rappelle ton père. Oui.
Dernier extrait d'interview avec Joseph Gorgoni, rencontré en mai dernier à Vic. L'interview complète n'a jamais été diffusée, pas encore en tout cas. Mais c'est réellement la plus récente de nos archives du rire. Joseph Gorgoni nous parle de Marie-Thérèse Porchet, qui 20 ans après n'a presque pas pris une ride.
Bien sûr, déjà physiquement, moi j'ai un peu changé, j'ai pris 20 ans, donc je me suis un peu arrondi, on va dire. Et du coup, mon jeu s'est arrondi aussi, la manière de faire n'est plus la même qu'à 20 ans. Ça a évolué, c'est-à-dire que le personnage est le même, c'est vrai qu'il était tel qu'il est aujourd'hui, il était comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai une manière de le faire maintenant qui est peut-être un petit peu plus distancée, je ne sais pas comment dire. Enfin, il y a une manière, il y a des scènes que je n'aimais pas faire il y a 20 ans et que j'ai beaucoup plaisir à faire là maintenant parce que je les joue pour de vrai. À l'époque, je me sentais peut-être pas légitime pour être comme, mais je me posais pas toutes ces questions là à l'époque. Je faisais, on savait pas du tout où ça nous mènerait. Là, c'est clair qu'après toutes ces deux décennies qui sont passées, forcément, moi j'ai appris mon métier. J'ai appris à le faire un peu de manière à faire des nuances que je faisais pas avant. Oui, c'est sûr. Je me sens plus l'âge du rôle, quoi.
Oh, mes débuts à la télévision non plus, ça n'a pas été facile. La speakerine de l'été, vous vous souvenez? Mais il paraît qu'à la direction, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'elle nous pompe, celle-là ?» Tu parles, ils prennent leur désir pour des réalités. Non, et puis j'ai d'autant plus de mérite parce qu'à la télévision, un jour, t'es au sommet, mais le lendemain, dès qu'on ne te voit plus, t'es rebut, c'est foutu. Prenez Jean-Marc Richard, par exemple. Jean-Marc Richard, talentueux, souriant, enthousiaste, bien coiffé. Et surtout polyvalent, hein, les coups de cœur, la roue de la chance, le kiosque à musique, la chaîne du bonheur. À la radio, c'est les petits zèbres, chacun pour tous. Résultat, vous avez vu où ils l'ont mis? À la ligne de cœur. Bonsoir, c'est Ghislaine. Bonsoir Ghislaine, comment ça va? Mon mari m'a quitté, ma fille veut plus me parler, j'ai perdu mon travail et je viens d'être amputée des deux jambes. Mais sinon, ça va! Oui, oui, ça va, je peux pas me plaindre. Oui, et puis le médecin m'a dit que je serais vite sur pied.
Joseph Gorgoni, vous reprenez ce spectacle qui a 22 ans. Vous avez tourné dernièrement à Zouk. Il y a eu le spectacle du 20e. Est-ce qu'il y a une sorte de nostalgie chez vous, une volonté de retrouver ce que l'on vivait dans les années 80-90 au niveau du rire?
Je crois pas. Non, c'est pas de la. C'est une... Alors peut-être une nostalgie heureuse, mais c'était comme on dit toujours qu'il faut avancer, pas regarder en arrière. Mais c'est juste que quand avec Pierre Naftul, on s'est rendu compte que en 2013, ça ferait 20 ans que Marie-Thérèse existe. Enfin, on s'est dit qu'il fallait qu'on marque le coup, quoi. C'était donc on a fait un spectacle des 20 ans. J'ai fait le spectacle de A à Zouk, et puis pour bien boucler la boucle, on s'était dit, on nous a proposé plusieurs fois, on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rejouer le premier spectacle juste pour quelques dates, juste histoire de, voilà, boucler la boucle pour pouvoir... Donc voilà, tout ça était prévu, et en même temps c'est des surprises et assez agréable de voir que ça fonctionne encore, et bizarrement, moi je suis le premier à dire que l'humour vieillit et que c'est pas une bonne chose de refaire les choses qu'on a déjà faites, mais celui-là, je sais pas, c'est comme magique, ça a bizarrement pas tellement vieilli. Enfin, même pas du tout. Et je vois les gens, en plus, ont tellement de plaisir à le revoir ou à le découvrir. Et... Alors, de ma part, il y a... Franchement, non, je suis pas dans le passé. Mm-hmm. Mais c'est des fois assez agréable juste de se poser et de se dire, putain, c'était quand même bien quand on avait 30 ans, quoi. Mais il y a plein de belles choses qui vont arriver. Mm-hmm. Mais je suis pas... Je déteste les gens qui disent que c'était mieux avant. Ça, c'est pas vrai. Hein.
Joseph Gorgoni, à l'instant, pour refermer ses archives du rire, nous avions rendez-vous aujourd'hui avec ces drôles de dames, Marie-Thérèse Porchet, Les Vampes et la Madeleine Proust, rencontrées entre 1986 et 2017 à Morteaux, La Chaux-de-Fonds, Morges, Genève et Vic. C'est la fin de cette série consacrée aux archives du rire, 30 ans d'interviews pour retracer plus de 60 ans de l'histoire de l'humour francophone. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à plonger dans ces archives afin de vous les faire partager. Toutes les émissions et les images sont à retrouver en tout temps sur la page des Archives du Rire. Au revoir. et à très bientôt.
One for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's get it.